Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence TOUAX. Je laisse à présent la parole à messieurs Fabrice Valeski, Raphaël Valeski, Steven Ponac et Thierry Delabrilly. Messieurs, c'est à vous.
Bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui donc les résultats annuels 2019. Nous allons aussi faire, dans le contexte actuel de la crise sanitaire, un focus particulier sur les impacts liés à cette crise sanitaire. Alors, pour rappel, cette présentation est téléchargeable sur le site web version française dans la page document rubrique investisseurs. Voilà, ben nous allons débuter. Je vous propose donc de démarrer par la page numéro 4. TOUAX, votre solution de location au service des transports durables. Donc c'est notre nouveau motto. Ici, on rappelle donc les trois activités en termes de positionnement. Donc l'activité wagon de fret, où nous sommes l'un des principaux loueurs en Europe, le deuxième en wagon intermodaux. Nous avons 9574 plateformes, 292 millions de wagons en actif en propriété, 133 millions de wagons en actif en gestion, un parc avec un âge moyen de 20,8 années. L'activité wagon en 2019 contribue significativement à l'EBITDA à hauteur de 63% de l'EBITDA du groupe et le positionnement géographique du wagon reste principalement en Europe à hauteur de 95% et 5% en Asie. Pour la partie barge fluviale, l'activité barge fluviale, donc une activité où nous sommes l'un des leaders, c'est une activité de niche. Nous avons 97 barges, 74 millions de barges en propriété, 10 millions de barges gérées pour compte de tiers, un âge moyen du parc à 13,6 années et l'activité barge représente 9% de l'EBITDA 2019 et nous avons 77% de ces barges positionnées en Europe et le solde 23% aux Amériques. L'activité conteneur, donc l'un des principaux loueurs au monde, le troisième gestionnaire de conteneurs au monde. Cette activité donc représente 434 816 TEU, ce qui représente 74 millions d'actifs en propriété, 589 millions de conteneurs gérés pour compte de tiers et un âge moyen de 10,1 années. Cette activité a représenté en 2019 24% de l'EBITDA et entièrement positionnée à l'international, donc c'est une activité dollarisée. Page 5, ici nous vous présentons donc une orientation, donc les résultats principaux de 2019. Donc là c'est vraiment les quatre points clés en chiffres. Donc tout d'abord le chiffre d'affaires, donc il progresse de 9% à 169 millions d'euros. Vous constaterez aussi une différenciation entre le premier semestre et le deuxième semestre, donc une accélération au deuxième semestre. Le résultat opérationnel donc, qui s'élève à 15,135 millions d'euros, en hausse de 87%. Là aussi, une très forte progression au deuxième semestre par rapport au premier semestre, puisque le deuxième semestre s'élève à 9,5 millions d'euros contre 5,5 millions d'euros au premier semestre. Ensuite, l'EBITDA, lui aussi en forte progression à 44%. Là aussi, une progression plus marquée sur le deuxième semestre, donc un total d'EBITDA à 36,9 millions d'euros et un résultat net par du groupe, lui aussi, donc qui s'améliore, qui reste néanmoins à nouveau en perte. On voit en revanche aussi une très forte amélioration au deuxième semestre puisqu'on est presque à l'équilibre en résultat net par du groupe et on verra dans l'analyse des comptes, le premier semestre était impacté notamment par une perte de change. Donc voilà pour ces chiffres principaux, donc en nette amélioration sur 2019. La page suivante, page 6, nous reprenons donc ces éléments marquent un retour à un résultat net positif avant impôt à hauteur de 700 000 euros. Donc je rappelle les chiffres, plus 44% d'EBITDA, plus 87% de résultats opérationnels. Nous avons réussi aussi cette année la levée de 40 millions d'euros, puis l'émission d'un euro PP pour 10 millions et la syndication de 37,5 millions d'euros auprès d'investisseurs. Donc en fin d'année, en fait marquant aussi, donc la loan to value, concernant le bilan, s'élève à 54%, nous permettant donc d'aborder l'avenir de façon plus positive en termes de développement. page numéro 7. Il s'agit là de la stratégie opérationnelle. Elle est basée sur l'amélioration de la performance et de la rentabilité. Ici, elle est déclinée, on la décline en trois axes. Premier axe, une croissance organique des revenus. C'est une croissance principalement sélective. Un deuxième axe, l'amélioration des marges. Et un troisième axe, la valorisation de notre participation modulaire en Afrique. Donc, dans le premier axe, croissance organique, nous rappelons ici donc que notre stratégie va être basée sur des investissements sélectifs en Europe, mais aussi en Asie, et qu'aujourd'hui et à l'avenir, nous continuerons à bénéficier donc d'une amélioration des taux locatifs et de location. En tout cas, c'était le cas pour 2019, nous allons revenir sur 2020. En barge, même objectif, des investissements sélectifs. À noter l'amorçage et un projet donc relativement significatif pour gérer donc des matériels pour compte de tiers, donc un amorçage donc de la gestion pour compte de tiers dans cette activité barge. Troisième activité, toujours dans la croissance organique, le conteneur. Donc nous allons investir plus en propriété pour améliorer la rentabilité et la pérennité. Nous allons aussi investir pas seulement dans des conteneurs dry, secs, mais aussi dans des conteneurs frigorifiques et possible d'autres types de conteneurs aussi. Il est à noter aussi dans notre stratégie, qui est visible en 2019 dans les chiffres, la très forte hausse des volumes de vente, aussi bien en conteneurs neufs qu'en conteneurs d'occasion. Deuxième axe de notre stratégie, l'amélioration des marges. Donc nous avons engagé il y a maintenant 2 ans un processus d'amélioration continue au niveau du groupe qui porte ses fruits. Nous avons aussi mis en place une organisation nouvelle de la gestion de la flotte dans l'activité wagon, là aussi qui porte progressivement ses fruits. Et nous avons optimisé nos coûts de façon relativement significative, notamment donc ce chiffre d'1,3 million d'économies en 2019 pour les frais généraux et dépenses administratives. Le troisième axe de la stratégie, c'est de revaloriser la participation résiduelle de notre activité modulaire en Afrique, donc il n'est plus dans la stratégie du groupe. Cette activité donc a renoué en 2019 avec un EBITDA légèrement positif. Nous avons à ce jour un carnet de commandes extrêmement significatif qui s'élève à 34 millions d'euros, principalement tourné vers le secteur éducatif. Et donc, nous envisageons à nouveau, pour l'année 2020 et 2021, un EBITDA positif dans cette activité en vue de bien valoriser cette participation. Voilà, je vous remercie donc pour cette première partie. Je vais passer maintenant la parole à Thierry Schmitt de Labrélie, directeur général finance du groupe.
Merci Raphaël. Donc je vais vous présenter les résultats plus en détail. Donc page 9, vous avez le compte de résultats. Donc, des produits d'activité qu'on voit en hausse, comme l'a dit Raphaël, de 154 millions à 169 millions, qui se décompose en activités locatives, activités vente de matériel et commissions de syndication. Une activité locative qui paraît stable, 134 millions 5, 134 millions 8 en 2019, donc très légère hausse. En fait, on a une forte progression de l'activité locative de matériel en propre qui est compensée par une baisse de l'activité locative de matériel en gestion, baisse puisque nous avons cédé des matériels, nous cédons des matériels. Des matériels qui sont âgés, qui sont cédés, qui profitent donc à l'activité vente de matériel. On voit cette progression significative sur l'activité vente de matériel qui est une part importante de la stratégie du groupe et notamment dans l'activité conteneur. Donc, vente de conteneurs neufs et vente de conteneurs d'occasion. Il y a une progression aussi importante sur l'activité modulaire Afrique avec le retournement qui a été fait en 2019. Les commissions de syndication augmentent avec des volumes un peu plus importants. Les coûts des ventes de matériel sont parallèles en augmentation à l'activité de vente de matériel. Ces coûts de vente sont un peu plus faibles avec des taux de marge qui sont meilleurs, avec une valeur ajoutée qui s'est améliorée. Les dépenses opérationnelles sont relativement stables. On va voir qu'il y a des effets compensés d'une division à l'autre avec un peu plus de dépenses au niveau wagon, un peu moins de dépenses au niveau conteneur. Les frais généraux et administratifs sont en baisse, comme ça a été évoqué par Raphaël, et la distribution nette aux investisseurs, qui est donc le loyer variable qui est reversé aux investisseurs de l'activité de gestion, l'activité locative, baisse puisque effectivement l'activité locative a baissé avec la vente d'un certain nombre de matériel appartenant aux investisseurs. Donc un EBITDA qui progresse significativement, des amortissements et pertes de valeur qui progressent aussi, alors c'est que des amortissements, il n'y a pas de dépréciation de perte de valeur. On y retrouve les effets IFRS 16 pour 1,6 million. Par contre, on va retrouver dans les amortissements un peu d'amortissement complémentaire parce que nous avons acquis des matériels et fait des investissements. Le résultat opérationnel donc progresse en conséquence. Le résultat financier passe de 10 millions à 14 millions. Donc on voit une augmentation significative de la charge financière. Plusieurs événements ici. Donc on a un événement sur le fait que comme on a investi et comme on investit depuis 2 ans qu'on est revenu à l'investissement, donc on a un endettement moyen qui est plus élevé, donc une charge financière qui est plus élevée. On a un effet IFRS 16 qui sera détaillé par la suite. Et on a une perte de change qu'on avait vue exceptionnelle au premier semestre de 1,2 million d'euros. Les impôts sur le bénéfice s'élèvent à 1,4 million d'euros. Donc on a des effets compensés sur des résultats positifs et des résultats négatifs. Les taxes restent présentes, donc on a un élément d'impôt important. Et le résultat net consolidé reste négatif à moins 1,5 million, mais en forte progression ou en amélioration, on va dire, par rapport à l'année précédente. Page 10, vous avez le détail de ce que je vous ai évoqué. Page 11, on peut voir ici la contribution des activités dans l'EBITDA, ainsi que la variation des activités. Donc on voit une variation positive des activités à l'exception de la barge fluviale. On va voir pourquoi. Il faut noter quand même que dans cette variation, il y a une variation qui s'appelle « autre », qui est assez importante. On était à moins 3,9 millions d'euros, on passe à plus 1,5 millions d'euros. Dans cette activité « autre », nous avons les constructions modulaires africaines, qui étaient négatives de 2 millions d'euros, et qui redeviennent légèrement positives. Et puis, on a les frais centraux qui en 2018 n'avaient pas été entièrement refacturés. Donc à périmètre comparable, on va voir que dans chaque activité, en fait, les progressions sont supérieures. On a aussi un petit effet IFRS 16 au niveau de l'activité autre. Si on passe dans le détail des activités, page 12, l'analyse de la performance du wagon de fret, donc on voit un chiffre d'affaires qui progresse de 56,3 millions d'euros à 61,1 millions d'euros. Cette progression, elle vient de l'activité locative, avec une augmentation des taux d'utilisation, en moyenne à 88%. Fin décembre, on atteint presque 90%. On était en moyenne à 85%, un peu moins de 85% en 2018. Donc on commence l'année 2019 à 90%. Une hausse des tarifs locatifs, puisqu'au renouvellement des contrats durant l'année 2019, on a pu passer un certain nombre de hausses sur les tarifs locatifs. On a aussi des volumes de syndication qui ont augmenté, qui ont été développés par Steven. Malheureusement, tout ça a été compensé, on va dire, par des dépenses opérationnelles. Donc, ça n'a pas créé un EBITDA en hausse. Donc, on voit un EBITDA stable. Dépenses opérationnelles qui sont liées aux frais de réparation et de révision des wagons. On notera quand même qu'il y a une facturation complémentaire de frais centraux par rapport à l'année 2018 d'environ 800 000 euros. Donc finalement, la progression n'est pas tout à fait stable, c'est presque 1 million d'euros de progression sur le wagon en 2019. Le wagon de fret, page 13, c'est une base d'actifs tangible. On voit une petite progression sur la base d'actifs entre 2018 et 2019, donc quelques investissements. Un âge de moyen de la flotte qui reste relativement stable. Le taux d'utilisation, on l'a vu, qui a progressé. Une durée moyenne de location qui reste élevée à 3 ans. Un wagon a une durée de vie économique qui est entre 30 et 50 ans. Bon, un wagon, ça ne se déchire pas, ça se reconstruit en fait. L'amortissement de comptable est de 36 ans. C'est 3 cycles de grande révision de 12 ans. Page 14, la performance de la barge fluviale. On voit ici une baisse de performance avec une baisse de chiffre d'affaires qui passe de 14,5 à 11,8 et de l'EBITDA qui passe de 4,5 à 3,5. La diminution du chiffre d'affaires locatif, elle vient d'un manque de dynamisme sur le marché sud-américain, mais aussi parce qu'on n'a pas fait de vente. Il y avait eu des ventes qui avaient été faites en 2018, quelques externalisations de plus-value opportunistes en 2018. Il y a eu un peu moins d'infrettement aussi. l'année 2019 est quand même marquée par des réinvestissements avec une nouvelle barge pour un investissement de 1,3 million d'euros sur l'année et des financements, puisqu'on a pu faire des financements et refinancements en début d'année sur 7 plus 3 barges, donc 3 nouvelles barges, dont une de l'année et deux de l'année 2018, et des refinancements en fin d'année sur 14 barges qui étaient en location financière et location opérationnelle. La barge fluviale, c'est aussi une base d'actifs tangibles, toujours, ce sont des actifs en métal, solides, simples, un âge moyen de la flotte qui est extrêmement jeune pour cette activité, 13,6 ans, un taux d'utilisation en fin d'année qui est élevé, à 90,5%, des durées moyennes de location qui sont longues, à 5,8 ans, donc assez résilient. Au niveau locatif, la durée de vie économique d'une barge est extrêmement longue. Donc ça vient de 30 à 50 ans, généralement 30 ans c'est vraiment très très court, ça, c'est plus long, et on fait des amortissements comptables sur 30 ans. Sur le conteneur maritime, page 16, donc on voit ici aussi la progression de l'activité, un chiffre d'affaires qui passe de 76,4 millions à 81,8 millions. Je vous rappelle que dans le chiffre d'affaires, on reconnaît l'intégralité du chiffre d'affaires, en ce compris les matériels appartenant à des tiers. C'est pour ça que ici la part EBITDA, ou le taux d'EBITDA par rapport au chiffre d'affaires est relativement faible. Progression très significative de l'EBITDA, qui passe de 2,2 à 8,8. Plusieurs phénomènes. D'abord, les investissements. On est revenu avec l'investissement en propre. Donc, on a investi environ 33 millions de dollars sur les 24 derniers mois. Donc, un chiffre d'affaires fortement en hausse sur le locatif pour les matériels détenus en propre. Le chiffre d'affaires pour les matériels détenus en cession, lui, a baissé puisqu'on a cédé des actifs âgés qui appartenaient à des investisseurs, ce qui nous a permis de dynamiser l'opération de négoce, qui fait vraiment partie maintenant de la stratégie de l'activité conteneur, avec une hausse de près de 8 millions d'euros sur cette activité, et donc une hausse significative sur les EBITDA. Le conteneur est aussi et encore toujours une base d'actifs tangibles. On est vraiment une société qui louons des actifs tangibles à durée de vie extrêmement longue. On voit que la base d'actifs sur les conteneurs diminue un petit peu puisqu'on a tous ces actifs âgés qui appartiennent à des investisseurs qui sont cédés au fur et à mesure, qui sont remplacés petit à petit par des investissements en propre. L'âge moyen de la flotte donc augmente pour l'instant, 10,1 ans. La durée de vie économique d'un conteneur, c'est 35 ans puisqu'il y a 15 ans maritime et 20 ans terrestre. Nous, on les exploite que sur leur vie maritime, sur une quinzaine d'années. Mais après, il y a encore 20 ans de valeur terrestre. C'est pour ça qu'on les déprécie à 13 ans à une valeur résiduelle de 1000 dollars. Donc, c'est à peu près 50% de la valeur du conteneur. Le taux d'utilisation est très élevé, 97%, on voit qu'il baisse un petit peu par rapport à 98% et que continue à baisser. Nous calculons le taux d'utilisation des conteneurs en intégrant les flottes qui sont destinées à la vente, contrairement à la plupart de nos concurrents, donc on n'exclut pas les conteneurs destinés à la vente. Donc quand on a des conteneurs âgés qui reviennent de location, on les met de côté pour les vendre et donc le taux d'utilisation baisse et puis ensuite ils sont vendus, le taux d'utilisation remonte. La durée moyenne de location est aussi extrêmement longue, 6,5 ans, avec un pourcentage de contrats 3-7 ans extrêmement élevé. Près de 90% des contrats sont sur des contrats de très longue durée. Je vous propose de passer au bilan, page 19, présentation d'un bilan simplifié comparé bilan comptable. On peut voir au niveau de l'actif, légère hausse de l'actif, avec des matériels immobilisés en légère hausse, puisqu'il y a un certain nombre d'investissements, des actifs courants qui diminuent. Ça, c'est principalement l'effet de déstockage, notamment de stocks de conteneurs de 2018 qui étaient cédés en 2019, et notamment syndiqués. Et puis, au passif, ces actifs sont financés par des capitaux propres et des dettes. Des dettes financières long terme qui diminuent. En fait, on a un transfert des dettes financières long terme vers le court terme, puisqu'il y a un certain nombre de refinancements qu'on va avoir à faire cette année. Donc, on retrouve dans les passifs courants qui, eux, augmentent. Je vous ai mis, page 20, une précision sur les impacts IFRS 16, puisque c'est la grande à grande mode IFRS, donc c'est super, personne ne va rien comprendre, mais c'est comme ça, c'est de la comptabilité, ça ne crée pas d'argent. Ceci étant dit, l'impact pour nous est assez faible pour l'instant. Je vais revenir sur le pour l'instant, c'est 3 millions d'euros sur l'actif et le passif, donc l'actif et le passif gonfle de 3 millions d'euros, et plus 1,3 million d'euros sur l'EBITDA et plus 0,3 million d'euros sur le résultat net. Alors pour l'instant, parce qu'il y a des discussions encore au niveau de l'interprétation des normes qui pourraient amener des changements par rapport à la gestion pour compte de tiers. Donc on regarde ça de façon détaillée, mais pour l'instant on continue de travailler de la façon dont on avait l'habitude en comptabilité. Page 21, vous aurez le détail des éléments du bilan, je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai dit les principaux éléments significatifs, c'est d'un côté la baisse des stocks et de l'autre côté le transfert de la dette financière long terme en court terme du fait de la part à refinancer. Page 22, vous retrouvez un bilan beaucoup plus simple que j'ai l'habitude de présenter, qui est le bilan économique, où on va regarder d'un côté le besoin en fonds de roulement. On a un besoin en fonds de roulement qui est négatif grâce à la gestion pour compte de tiers, qui est toujours négatif. De l'autre côté, on va retrouver des actifs, les actifs non courants et les stocks. Donc on va retrouver dans ces actifs tous les actifs immobilisés. On a 5 millions d'euros de goodwill dans le groupe, hein, donc on est vraiment un groupe qui détient des actifs tangibles. 364 millions d'euros d'actifs tangibles. Et ces 364 millions d'euros sont financés par l'endettement et les capitaux propres. Endettement net, 199 millions. Pour mémoire, dans les 123 millions de capitaux propres, on y retrouve la dette hybride, donc on peut appeler preferred shares aussi, qui sont des titres super subordonnés à durée indéterminée pour un montant de 50 millions d'euros. Le détail de l'endettement, page 23, 239 millions d'euros de dette brute, 39 millions d'euros de trésorerie équivalent à fin décembre. La dette brute, on va retrouver de la dette corporate et de la dette de financement d'actifs, 155 millions de dette de financement d'actifs qui est sans recours, oui c'est ça, et 84 millions qui est de dette corporate, donc avec recours. On a des sources vraiment de financement qui sont très diversifiées. On accède à beaucoup de marchés. Donc on a 36% de notre dette qui vient des marchés de capitaux, 49% plus 3% en location qui sont des financements suractifs, sécurisés par actifs en financement d'actifs et quelques dettes, crédits à court terme et découverts. Le taux moyen de la dette est de 4,66 et varie selon le dollar, l'euro ou le GBP. Donc on a un taux dollar, bien entendu, qui était un peu plus élevé, avec les taux courts qui étaient plus élevés en dollars. Au niveau des échéances, page 24, donc on a eu, si on regarde les éléments clés sur la partie droite de ce slide, une activité importante l'année dernière, principalement sur la dette corporate. On a signé donc un prêt senior de 40 millions, un secure de, donc était senior secure d'Infine, un euro PP de 10 millions d'euros. On a fait des refinancements de barges, 9 refinancements d'actifs. 2020 est un programme de refinancement d'actifs, donc et pas de refinancement corporate, vraiment refinancement d'actifs. Donc si on regarde la partie gauche, on voit le montant important de refinancement d'actifs, 124 millions, dont 108 millions d'euros d'emprunt moyen long terme, avec recours plus crédit bail. On y retrouve dedans, avec sans recours, pardon, on y retrouve dedans des financements garantis par actifs, dont 66 millions d'euros pour les wagons et 39 millions d'euros pour les conteneurs. Donc ce sont des éléments qu'on est en train de travailler. Bien entendu, les événements actuels font que c'est plus compliqué d'émettre aujourd'hui. Donc on est plutôt aujourd'hui sur des extensions. On continue de travailler sur les refinancements, mais on va avoir des extensions parallèles puisque tout est un petit peu plus lent en ce moment. Page 25, le profil de crédit. Donc on garde quand même un profil de crédit qui est très satisfaisant pour un groupe qui a une base d'actifs tangibles importante sur des contrats de location de longue durée, donc qui est résilient en fait. 1,62 de gearing net pour une dette financière de 199, on a vu. Là, loan to value qui augmente très légèrement à 0,54, 54%, 52%, c'est normal puisqu'on investit un petit peu dans le matériel. La loan to value ici est calculée comme elle est calculée dans nos contrats bancaires ou dans nos contrats de dette, c'est-à-dire que c'est le rapport entre la dette financière brute et le total des actifs diminué des goodwill et des immobilisations intangibles. Donc 54%, et puis un interest coverage ratio de 3,14, donc qui reste très positif aussi, et qui montre l'amélioration des résultats. Le page 26, pour finir, le tableau de flux de trésorerie. Donc on voit des flux opérationnels qui restent quand même relativement faibles. 4,7 millions en 2018, 8,3 millions en 2019, mais il faut se rappeler que pour un loueur d'actifs comme nous, on classe dans les flux opérationnels tous les investissements. Donc les achats nets de matériel et variations de stock se retrouvent dans les flux opérationnels. On y retrouve les achats, on y retrouve les ventes, bien entendu. Donc si on regarde les flux opérationnels hors BFR d'exploitation et hors achats, on voit une amélioration 23,8 millions à 31,7 millions qui vient de l'amélioration de l'activité et de l'EBITDA. Un BFR d'exploitation, qui la variation du BFR qui s'améliore, hein, on est en variation de BFR ici, donc on est à plus de 4,5 millions d'euros, donc on encaisse toujours mieux les clients. Et des achats de matériel, on voit les montants d'achats qui ont été significatifs en 2018 et en 2019 pour environ 28-29 millions d'euros. Le flux d'investissement est toujours très faible chez nous, puisque encore une fois, les achats de matériel tangibles sont classés dans les flux opérationnels. On retrouve ici simplement la libération du compte séquestre lié à la cession de l'activité de construction modulaire européenne, donc une partie de la libération, et donc du fait de la garantie d'actifs passifs qui n'a pas été exercée. Et des flux de financement qui sont relativement nets, neutralisés, puisque on a refinancé principalement des dettes, et donc on retrouve un flux de financement relativement faible, les achats nets étant été refinancés par les flux opérationnels. Donc en conclusion, sur ce détail des résultats, une amélioration sur l'année 2019 qui marque effectivement la stratégie du groupe. Et je vais laisser la parole maintenant à Steven Ponak pour nous présenter la gestion d'actifs.
Merci Thierry. Donc je vais sur la page 28 présenter le modèle de la gestion d'actifs. Encore une fois, pour rappel, la syndication permet au groupe de développer la flotte et de dégager des revenus supplémentaires sans augmenter le dette et le niveau de gearing. C'est quelque chose qu'on pratique au niveau de le groupe depuis plus de 25 ans, donc une longue histoire et des relations qui durent. Donc les principales caractéristiques sont actifs organisés en portefeuille. Et quand on dit portefeuille, c'est un portefeuille d'actifs, mais aussi un portefeuille de contrats de location. Donc, les investisseurs n'investissent pas uniquement dans des actifs, mais des actifs qui sont en location. Les investisseurs sont variés, des family office, des investisseurs institutionnels, qui, on va voir, investissent soit en direct ou via des fonds luxembourgeois. Le diapo suivant, on va voir un peu le contexte contractuel de nos modèles de gestion d'actifs. Très important à répéter à chaque réunion, c'est que tous nos programmes de gestion sont sans garantie minimum pour les investisseurs. Les investisseurs sont les vrais propriétaires des actifs et ils ont tous les profits et les bénéfices. Sur le côté gauche de le diapo, on a les actifs en valeur historique brute et la répartition entre le part détenue par le groupe et le part détenue par les investisseurs par activité. Donc sur les wagons de fret, on voit que le groupe détient 292 millions d'actifs en propre, qui est 69% du total, dont à peu près légèrement en baisse par rapport à fin juin, où on était à 71%. Le barge, on a 74 millions en propre, qui est stable, avec 90% en propre. Et sur l'activité conteneur, on a aussi 74 millions en propre, 589 millions en gestion. C'est légèrement en hausse à fin décembre à 11% par rapport à fin juin où le parti en propre était à 10%. Sur le prochain diapo, le 29, on voit bien le process de syndication et les façons que c'est contractualisé et aussi la façon que nous, on est rémunéré. Donc, il y a trois étapes différentes. La première, c'est la syndication initiale, où le groupe touchera une commission de syndication liée à le fait qu'encore une fois, on ne vend pas juste un portefeuille d'actifs, mais on vend un portefeuille d'actifs en location. Et donc, on est rémunéré pour ce travail initial de acheter les actifs, de les mettre en location et ensuite de les porter pour être ensuite syndiqué. Il y a aussi un travail technique important sur l'achat des matériaux, soit en Chine, soit en Europe ou en Amérique, où on va, et nos équipes ont les connaissances et les expertises pour gérer tout le process de l'achat de l'actif. Et ça aussi, c'est partie de la rémunération liée à la commission de syndication. Ensuite, il y a la gestion d'actifs, la commission de gestion qu'on va toucher pendant toute la durée de le contrat de gestion, qui typiquement est entre 10 jusqu'à 15 ans. Souvent, dans nos contrats, on a aussi une prime d'incitation sur les retours d'investissement. Et la dernière étape, c'est la vente d'occasion et où on va toucher une commission de commercialisation à la fin de vie de le matériel. Sur le prochain diapo, donc on a la répartition de l'ensemble des actifs sous gestion entre 2019 et 2018. En gestion ou en propre, on a 448 millions au niveau de le groupe, légèrement en hausse par rapport à fin juin, on était à 36%, on est aujourd'hui à 38%. On avait déjà parlé des investisseurs. Leur stratégie, pourquoi les investisseurs investissent chez nous, c'est à la recherche d'une diversification, un rendement récurrent sur des actifs réels et tangibles, avec des longues durées. Alors, la stratégie sur la page 31 de la gestion pour compte de tiers, gestion d'actifs, donc on a deux tuyaux ou produits qu'on utilise. Il y a un investissement par l'intermédiaire de fonds et un investissement en direct. Donc, sur le parti fonds, donc le groupe Twax est le partenaire d'exploitation exclusif sur deux comportements d'une fonds AFM luxembourgeoise. Ces fonds sont des fonds ouverts qui sont une structure réglementée européenne avec une très bonne protection juridique, une gouvernance indépendante avec une gestion AFM déléguée qui est Camdust, le gestionnaire pour le fonds, un levier structuré et une liquidité organisée au bout de 3 ans avec un process de valorisation qui est aussi indépendant, géré par les AFM. Il faut aussi préciser que le fonds a une cible de 5% annuel de dividendes qui, depuis 2016, était toujours payé. Donc, on a deux comportements. Un comportement euro qui était lancé en 2016, qui compte aujourd'hui à peu près 50 investisseurs, des family offices et institutionnels, qui à fin décembre 2019 avait investi dans les actions de deux SPV irlandaises, qui eux possèdent 3 450 wagons de fret avec une valeur marché combinée supérieure à 150 millions d'euros, qui est stable par rapport à la valeur de marché de 2018. Le comportement d'Alar était lancé en 2018. À fin décembre, il a 9 millions de fonds propres, près de 9 investisseurs, aussi des institutionnels et des family office, et qui détient 100% des actions d'une société irlandaise qui possède un portefeuille de 7160 conteneurs. Donc, les investisseurs en direct sont des fonds, notamment des fonds infrastructure, il y a deux qui sont déjà investisseurs et des discussions en cours avec plein d'autres, incluant des investisseurs institutionnels, style hedge fund aussi. En 2019, nous avons syndiqué pour 28 millions de conteneurs et on commence l'année 2020 avec des engagements de principe pour avec deux investisseurs pour 50 millions. En wagon fret, nous avons syndiqué 12 millions en décembre 2019. Et on a signé des engagements d'achat ferme pour 45 millions d'ici 2022, dont 7 millions prévus en 2020. Donc, en conclusion pour l'activité de gestion pour le compte tiers, gestion d'actifs, donc on est convaincu que l'investissement dans l'actif tangible avec des contrats long terme en place offre une diversification de risques très intéressant dans l'environnement actuel. Encore, c'est un exemple de la force de ce modèle et l'intérêt de ce modèle. Et maintenant, je vais vous passer la parole à Fabrice Falaschi, directeur général, pour parler de la suite des activités.
Merci, Steven. Donc, on passe à la partie 2, perspectives de marché et stratégie, avec le point qu'on va faire sur coronavirus. Page 33 sur les perspectives à moyen terme sur l'activité ferroviaire. Quand je dis moyen terme, donc c'est évidemment sans tenir compte pour cette diapositive de l'impact coronavirus qu'on verra plus tard. À moyen terme, on prévoit toujours un marché ferroviaire en hausse en Europe, une hausse à peu près de 1% à 1,3% par an en termes des trafics. C'est à peu près la croissance continue qu'il y a depuis 2013. Le taux de fabrication de wagons est toujours à peu près maintenant de 12 000 wagons depuis un an et demi, deux ans par an, ce qui est assez faible, hein, c'est juste au niveau du remplacement des flottes de 750 000 wagons en Europe. Il y a 50 milliards de wagons en circulation, 750 000 wagons. On voit aussi une progression des parts de marché des loueurs, donc ça devrait continuer, surtout dans les périodes incertaines comme on voit aujourd'hui avec le coronavirus. La volatilité fait que les transporteurs qui sont sur des activités spot ne veulent pas s'engager sur des investissements et donc s'adossent avec des loueurs. Donc la part de marché des loueurs était passée déjà de 20 à 30%, on l'attend en hausse jusqu'à 40%, qui est à peu près le niveau des autres grands pays. Sur l'Asie, c'est à moyen terme positif, principalement lié à la libéralisation du fret ferroviaire aussi sur certains pays comme l'Inde, des besoins de wagons innovants. Certains wagons, je crois que ça a lancé, n'avaient jamais été lancés avant, notamment pour le transport de ciment en vrac d'automobile. Et on voit aussi, ce n'est pas qu'en Europe, mais de gros projets d'infrastructures comme la route de la soie ou le corridor dédié fret en Inde, qui évidemment favorise les transports par rail. Notre ambition sur ce secteur donc est donc de continuer à la fois d'améliorer le rendement sur nos actifs existants. Donc on a fait progresser en quelques années le taux d'utilisation de 79% à 89% comme il est actuellement. Donc c'est de continuer et de continuer aussi à avoir cette croissance organique régulière en lien avec nos clients et aussi avec nos investisseurs fonds infrastructure. En exemple, par exemple, sur l'Europe, on a livré récemment Heidelberg, le ciment mondial, même au UK, sur des wagons neufs qui vont faire du transport d'agrégats pendant 5 ans sur le très gros chantier d'infrastructure qui s'appelle HS2, qui est la liaison d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Londres et Manchester. Sur l'Asie, donc ambition de Twax moyen terme, donc comme vous le voyez, c'est de passer à 3000 wagons. On a 100% de taux d'emploi actuel. Ce sont des contrats que de très longue durée avec des grands industriels. Nous avons récemment en fait signé, nous avons 10 trains, 11 trains pardon, en circulation, 8 trains complémentaires en contrat aujourd'hui et en cours de livraison. À peu près 500 wagons sont loués auprès de clients comme Tata Steel ou Birla. Sur la partie barge fluviale, c'est un marché de 15 milliards. Perspective moyen terme aussi, en tout cas positif pour l'Europe, plus neutre pour les États-Unis ou l'Amérique du Sud, mais plutôt positif pour l'Europe, avec aussi à la fois des croissances liées au chantier d'infrastructure, sensibilisation des instances européennes pour tout ce qui est transport écologique, on va y revenir plus tard, et d'importants investissements publics maintenant dans la filière. Aux États-Unis, un marché sur lequel, pour l'instant, on voit pas de croissance, c'est principalement lié à la baisse des transports de charbon, juste compensé par la hausse des transports de céréales, mais pas de croissance nette, et une amélioration progressive, par contre, en Amérique du Sud, qui continue, notamment le développement du transport de céréales. Nos ambitions de Twax sur ce marché, c'est de continuer de faire une croissance aussi organique en Europe. Nous avons passé des commandes, notamment pour des grands cimentiers aussi français et européens, pour le chantier du Grand Paris. On participe à beaucoup d'études sur des projets innovants pour aider à la relance du transport fluvial en Europe. Hein. Donc, on participe notamment à des projets comme Novimar, qui sont des barges automatiques en convoi, ou Multirégio, qui est une société qui va exploiter tout le canal Seine-Nord qui a été, comme vous savez, lancé finalement après tant d'années. Nous sommes aussi, comme a indiqué Steven, et ça c'est intéressant, devenus un peu par notre part de marché et notre caractère unique, étant le leader de location de barges en Europe, on a été choisi pour être le partenaire opérationnel de fonds d'infrastructure qui aide en fait à la relance de cette activité. Ce sont des projets sur lesquels nous travaillons de plus de 120 millions d'euros sur 4 ans. Hein, c'est à peu près 100 barges, ce qui pourrait représenter même un doublement de la flotte. Encore une fois, par contre, ambition sur les États-Unis et l'Amérique du Sud, très peu de projets aujourd'hui, à part éventuellement un projet de 10 barges neuves sur le Mississippi en cours d'analyse. Sur la partie conteneurs, c'est un marché de 80 milliards dans le monde, conteneurs logistiques, c'est tout le transport intermodal. On voit à moyen terme toujours sur le marché, un marché surtout qui est lié à un besoin de remplacement de 5% par an. Donc c'est à peu près 4,5 milliards de dollars d'investissement par an à effectuer. Ce qu'on voit aussi, c'est et là c'est maintenant plus lié à la crise du virus, c'est des hausses de prix sur les conteneurs neufs, liées aux capacités limitées qu'il y a eu en Chine pendant un mois et demi, 2 mois. Les Chinois se sont aussi imposés des règles de fabrication qui sont plus restreintes que dans le passé. Un shift, c'est la formule 1, 5, 10 que vous voyez sur la diapositive. Un shift, 5 pour 5 jours par semaine, 10 pour 10 heures par jour. Alors c'est quand même une semaine de 50 heures. Mais en tout cas, c'est nouveau puisque le tissu industriel chinois joue clairement la hausse de prix et la limitation du volume. Donc on voit sur ce marché aujourd'hui des hausses tarifaires sur les prix de matériel neuf, ce qui n'est pas mauvais pour des activités de location puisque ça revalorise les contrats et les valeurs résiduelles. La croissance elle-même, elle a été très molle en 2019. Vous étiez tous bien au courant, bien sûr, des guerres commerciales. Le commerce mondial n'a fait que 1,7% de croissance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même en 2019, où la croissance en fait a été très faible, nous avons pu délivrer une hausse de notre EBITDA, met en exergue dans notre stratégie qui était de se reluer en termes de résultats en devenant un peu plus propriétaire et aussi en développant les activités trading. Donc nous avons pu, ça c'est un message important d'aujourd'hui, délivrer dans un environnement en fait de croissance molle, une croissance. Sur les prévisions du PIB, je laisserai tout le monde faire ses propres prévisions. On donne là que les dernières de l'OCDE. Elles seront mauvaises, bien sûr, pour 2020. On parle aujourd'hui de 2,4%, voire nous dit de 2,1%, donc forte dégradation par rapport aux 3,3%. On verra ce à quoi on va arriver. On va vous parler du virus juste après. Ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés de location sont toujours assez porteurs dans ces moments difficiles, puisque le manque de visibilité entraîne, s'il y a des besoins, un redémarrage, une augmentation des parts de marché de loueurs. On l'avait déjà vu, comme pour le wagon, sur l'activité conteneur, notre part de marché sur la dernière décennie est passée de 40 à 52%. Hein, donc 52% des conteneurs en circulation appartiennent aux compagnies leasing. Intéressant aussi de noter que c'est contraire à 2009. 2009, on avait vu les taux d'utilisation baisser. Depuis maintenant 2 mois de cette crise, les taux d'utilisation se maintiennent au niveau mondial à 96% pour l'utilisation des conteneurs, ce qui témoigne d'une non-contraction des trafics mondiaux. Intéressant aujourd'hui de noter. Dans ce marché un peu chahuté, les ambitions de TWAX en fait restent les mêmes. Nous allons continuer en fait d'augmenter progressivement notre taux de propriété, hein, donc ça permet de se remuer en résultat, ce qui explique aujourd'hui la croissance de l'EBITDA avec plus de 287% hein, des résultats à périmètre comparable. On développe aussi des activités périphériques comme le trading. Sachez que le mois de février 2020 a été un très bon mois en termes de trading, donc il y a toujours dans le monde, malgré la crise, des consommateurs de conteneurs, notamment pour faire du stockage dans ces moments chahutés. Nous allons développer, donc comme je l'indique, aussi les conteneurs frigorifiques. C'est très très lié à l'alimentaire, c'est un secteur qui s'est beaucoup développé, et la gestion pour congestion qui est présentée par Steven. Alors, un petit focus sur le développement durable. Vous avez vu qu'on a changé notre site internet, changé notre moto. Donc, c'est vraiment un loueur au service du transport durable. C'est une tendance structurelle, qui probablement, qui sera d'ailleurs favorable en sortie de crise qu'on subit actuellement. Beaucoup d'États ont décidé des lancements de projets d'infrastructure pour soutenir les économies. Comme notamment l'Europe a décidé de soutenir une économie verte et donc les transports verts. Et donc, vous avez beaucoup de chantiers d'infrastructures qui vont être relancés et qui vont nous concerner directement. On indique ici, page 36, les grands chantiers que vous connaissez. Canal Seine Nord, bien sûr. Grand Paris Express, déjà lancé. Peut-être d'autres connaissent moins le Seine-Héry base tunnel qui va être finalisé en fait fin 2020. Qui va terminer toutes les liaisons ferroviaires à grand gabarit sous les Alpes. Un projet a été lancé récemment, le Rail Baltica, qui sera ouvert en 2026. C'est ni plus ni moins 870 km de réseau au standard européen, donc le gabarit standard, 1,4 m d'écart, et qui va en fait relier l'Europe, donc la Pologne, avec la Finlande via la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Vous avez aussi, on a mentionné, le High Speed 2, qui est ce chantier d'infrastructure au UK pour faire les lignes ferroviaires entre Londres, Birmingham et Manchester. Deuxième point intéressant sur le développement durable, les entreprises, elles aussi, ont pris des engagements. Vous avez indiqué les engagements 2020, là on les a remis à jour. Engagement 2025 pour Solvay, c'est réduire de 1 milliard de tonnes de CO2 leurs émissions. Danone, c'est un engagement de zéro émission nette d'ici 2050. Et ArcelorMittal, c'est toujours plus dur pour la sidérurgie, bien sûr, mais quand même des réductions attendues de 30%. Donc ça passe par des reports modaux de la route vers le fleuve et le rail et l'intermodal. Enfin, donc on rappelle qu'il y a aussi des bénéfices avéré pour les transports fluviaux, maritimes, ferroviaires ou intermodaux. Hein. Donc, encore une fois, je vous invite à rejoindre le site ecotransit.org qui calcule toutes les réductions d'émissions de CO2 quand on transfère de la route du transport vers le rail ou l'intermodal, le fluvial. Page suivante, notre engagement se traduit aussi par des initiatives. C'est un exemple ici, hein. Il y en a beaucoup d'autres. mais sachez qu'on a été retenu par l'Europe parmi les 8 projets européens pour travailler non seulement sur le développement du rail, mais aussi sur un rail plus silencieux. Ça permettra de développer en volume les transports. C'était surtout une problématique en Allemagne et en Suisse. L'augmentation des trains entraînait des nuisances sonores pour le passage dans les centres-villes. On a donc été sélectionné pour équiper nos wagons de systèmes de freinage beaucoup plus silencieux. Perspectives structurelles, page 38, et notamment l'impact Covid. Alors, vous avez eu 2 communiqués de presse, l'un le 6 mars et un aujourd'hui, qui rappellent une première chose. Nous ne sommes pas classés dans les entreprises qui vont tirer profit de cette crise. Nous ne sommes pas dans la catégorie des gens qui vont souffrir, mais nous sommes plutôt dans le modèle au milieu, modèle de résilience. Pourquoi ? Puisque nous avons un modèle de location longue durée de matériel de transport qui sont utilisés aujourd'hui compte tenu de la consommation et des échanges qui font continuer de se faire. Donc nous avons confirmé 2 fois, le 6 mars et aujourd'hui, qu'il n'y a pas de retard de paiement à ce jour, pas d'annulation de contrat, pas de baisse de tarifs sur les reconductions, un maintien des taux d'utilisation, et même à cause des problématiques de livraison, de fabrication, d'usines qui ferment, des inflations qu'on voit sur des matériels neufs. Cependant, nous restons très vigilants, et vous allez voir juste derrière les différents scénarios qu'on dresse. Deuxième point, ce ralentissement des chaînes logistiques crée des manques. C'est pour ça que le taux d'utilisation se maintient bien au niveau conteneur. Sachez que tous ces ralentissements en fait créent simplement des manques de matériel, notamment sur l'Europe aujourd'hui, d'où certaines hausses tarifaires. Ça favorise plutôt aujourd'hui ces activités. On a aussi un chiffre intéressant qu'on vous redonne chaque année, mais sachez que la résilience se traduit par une statistique simple. Au 1er janvier 2020, 76% des revenus locatifs budgétés sont déjà reconduits, sont déjà sous contrat en fait. Donc une énorme résilience simplement contractuelle liée à l'activité de longue durée. Sachez que structurellement aussi, comme je l'ai indiqué, les activités en sortie de crise seront soutenues par leur côté vert, par les pouvoirs publics. Qu'il y a beaucoup d'investissements dans les infrastructures et que la libéralisation aussi permet au secteur privé de financer les besoins. Voilà. Donc à moyen terme, toi qui es en mesure d'augmenter ta rentabilité et de continuer de croître structurellement. Maintenant, un petit peu les pages 39, les scénarios. Alors, beaucoup d'études, très nombreuses. On prend McKinsey ici, et qui indique en fait 2 scénarios possibles. Un scénario de reprise en V, hein, donc un fort impact, mais au milieu du deuxième trimestre 2020, une remontée des activités avec l'arrivée de la saison chaude et l'arrivée combinée de toutes les réponses qui sont données par les gouvernements au niveau de la santé. C'est le scénario de base aujourd'hui. Le scénario du pire, bien sûr, ce serait une crise prolongée, avec un virus qui continue de se propager à l'échelle mondiale, sans déclin saisonnier, donc qui continue malgré l'été, créant un choc de la demande beaucoup plus sérieux et qui irait jusqu'au deuxième trimestre 2021. Donc là, on a une année de contraction, comme l'a été 2009. C'est le scénario du pire. Pour l'instant, tous les scénarios que nous traitons sont plutôt sur le scénario de base, qui est donc une contraction forte, sur le milieu de 2020. On peut analyser sur McKinsey les différents secteurs d'activité. Le tourisme, de base, serait très très impacté, donc fort, avec une reprise. L'aviation, très impactée, une reprise que sur le troisième trimestre. Le pétrole, impacté, une reprise sur le troisième trimestre. L'automobile, impacté, une reprise sur le deuxième, troisième trimestre. Consommation des ménages impactée mais reprise rapide, deuxième trimestre. Électronique, reprise rapide, deuxième trimestre. Santé, reprise rapide, deuxième trimestre. Twax, transportant de la matière, du cargo standard pour les ménages, pour l'électronique, pour l'automobile, et surtout sur ces 3 segments, qu'ils soient transportés par rail, par fleuve ou par conteneurs. effectivement sont plutôt protégés par le tourisme d'aviation. Donc on est vraiment sur un scénario aujourd'hui de protection, plutôt d'une résiliente grâce à la protection de contrats long terme. Bien sûr, malgré tout ça, donc nous prenons des mesures prudentes. Première mesure, page 40, de protection des équipes. Donc sachez que toutes les équipes de TOUAC sont aujourd'hui équipées pour le télétravail et nous suivons les recommandations pays par pays. C'est la chance du groupe d'avoir toujours été très agile, car très international. On était déjà totalement équipés sur Paris, Dublin, Hambourg, Singapour, Miami, avec des connexions sécurisées via VPN, avec des serveurs installés à distance. Donc le groupe a pu facilement, même si c'est toujours avec beaucoup de travail, mais en tout cas passer en télétravail quand c'était demandé. Nous avons un site industriel quand même qui est au Maroc et sur lequel a été instaurée une mesure pour protéger nos employés, protéger aussi l'activité d'une rotation du personnel tous les 15 jours. Surveillance, deuxième point, surveillance accrue des impacts potentiels. Donc on fait extrêmement attention bien sûr aux encaissements, restitutions, évolution des prix, disponibilité de l'offre, évolution de la demande. Nous avons des cellules de crise organisées au niveau de l'entreprise. On anticipe beaucoup aussi au niveau de la gestion de trésorerie, avec un suivi très précis de la liquidité quotidienne. Et nous prenons des mesures gestion, comme l'a dit Thierry, sur les maturités de dette, en parallèle des travaux de refinancement. Nous avons aussi, auprès de nos clients, maintenu totalement notre engagement pour assurer une continuité de service. Nous sommes 100% joignables aujourd'hui via notamment toutes les équipes en télétravail. Nous suivons fortement aussi toutes les chaînes logistiques qui sont fortement perturbées aujourd'hui. Sachez que les ateliers ferroviaires sont fermés à 30% aujourd'hui. On demande des dérogations d'ailleurs aux agences de sécurité ferroviaire pour que les trains roulent, même s'ils sont périmés de révision pendant cette durée de 3 mois. Donc en fait, toute l'industrie s'organise pour qu'il n'y ait pas trop de problématiques. Nous avons aussi constitué des stocks stratégiques, notamment pour le modulaire au Maroc. Vous savez que le Maroc donc, bénéficie, comme l'a indiqué Raphaël en introduction, d'un très beau carnet de commandes de 34 millions d'euros aujourd'hui. Donc c'est bien sûr sécuriser la livraison de ce carnet de commandes. On réalise aussi des tests de résistance financière, mais comme on l'a indiqué 2 fois par communiqué de presse, l'activité est très résiliente. Troisième partie, maintenant on va faire un point sur la partie patrimoniale et bourse. Vous vous souvenez, quand on avait cédé la quasi-totalité de nos activités de construction et de location de bâtiments modulaires, on quittait un métier plus industriel pour aller vers un métier de quasi-foncière, d'actifs réels de rendement, donc une activité de location longue durée, aujourd'hui donc de wagons de fret, barges fluviales, conteneurs logistiques. C'est donc un business model très lié, encore une fois, à une foncière. Nous étions engagés à vous calculer sur base d'expertise indépendante la NAV par action. Donc c'est en fait l'actif net réévalué par action. Vous avez page 42, donc le détail des calculs. Wagon de fret, 157,7 millions d'euros de valeur d'expertise. Les expertises, c'est Relistix qui les fait ici. C'est un expert qui est utilisé très largement par les banques et assurances aujourd'hui, très reconnu sur le secteur, et qui a utilisé une méthode simple de 50% de valeur d'emprunt, 50% de valeur d'usage, contre une valeur nette comptable de 129 millions d'euros. Barge fluviale, critère de valorisation, 60,2 millions d'euros contre 49,9. Conteneur, c'est une technique d'expertise sur la valeur d'usage. L'expert est Harrison, très reconnu aussi, très utilisé par les banques, 73,6 millions d'euros contre 67,2, un total de 327 millions. Vous avez en fait, par rapport à l'actif net, 45,2 millions d'euros de plus-value latente divisé par le nombre d'actions. C'est donc à peu près 6-7 euros de plus que l'actif net par action, ce qui vous donne les 13,23 € aujourd'hui d'actif net par action sur une méthode très simple de revalorisation que des actifs tangibles du groupe. Page 43, là, c'est le tableau classique, donc il n'y a pas eu le nombre de titres n'a pas bougé de 2018 à 2019, c'est exactement le même. La capitalisation boursière est autour de 30 millions d'euros, mais vous savez que le titre fin 2019 était à 5,30 € et a beaucoup baissé, malheureusement, comme tous les autres titres. Donc la décote indiquée ici est bien plus grande aujourd'hui. Vous avez les capitaux propres ici. Par du groupe, vous avez donc le bénéfice par action, la décote et le volume journalier. Voilà, vous avez page suivante, vous verrez, je ne vais pas les commenter, mais c'est pour vous. Donc on a réindiqué le business model et notamment le nom de nos principaux clients. Nous vous remercions beaucoup pour avoir participé à cette conférence téléphonique et maintenant vous donnons la parole pour les questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une première question de Madame Christine Repère de Gilbert Dupont. Madame, c'est à vous.
Oui, bonjour messieurs. J'aurais deux questions. Sur l'année 2019, il y a eu un niveau de cession d'actifs assez important. Quel est globalement ce que vous anticipez sur l'année 2020? Et j'avais une deuxième question sur la valorisation des actifs. Quand on regarde d'une année sur l'autre, on s'aperçoit que finalement en global, donc on arrive à 327 millions contre 401 l'année dernière, avec une grosse évolution sur l'activité wagon, et pour autant qu'il ne se retrouve pas dans l'actif net réévalué par action que vous mentionnez. Donc est-ce que vous pourriez comparer ces évolutions 2018-2019, faire un peu de précision sur ces variations.
Oui, donc cession d'actifs, en fait en 2019, il y a une grosse activité de vente d'actifs. Ça vient principalement donc du développement de l'activité de trading de conteneurs d'occasion et de conteneurs neufs au niveau de l'activité conteneur. Nous prévoyons en 2020 des niveaux similaires d'activité. Comme je l'ai indiqué, donc l'activité trading de conteneurs neufs ou d'occasion se comporte bien sur janvier et février avec des niveaux élevés d'activité. Donc on prévoit vraiment un maintien sur cette partie. Sur les valorisations d'actifs, il y a finalement une légère hausse par rapport à l'actif net réévalué par rapport à l'année dernière. On était à 12,70 €, on passe à 13,23 €. Attention dans les chiffres, dans la présentation du wagon de fret, on présente ici les 157 millions d'euros sont la cote-part groupe propriété. Hein, nous avions des sociétés dans lesquelles on n'était pas 100% propriétaire et donc on procède ici à un retraitement. Donc ici, vous voyez vraiment par différence les plus-values par métier, ce qui est intéressant. Donc, et finalement, qui ont assez peu évolué par rapport à l'année dernière. Il y a une petite augmentation au niveau des conteneurs. C'était moins le cas de l'année dernière. Cette augmentation sur les conteneurs est liée à l'achat du groupe effectué en 2019 de conteneurs d'occasion frigorifiques qui sont aujourd'hui très bien loués. Cette acquisition a été faite dans de très bonnes conditions et a été bien valorisée par l'expert indépendant Harrison, donc qui a créé une petite augmentation au niveau du conteneur. Donc là, c'était vraiment lié à des activités spécifiques. Sinon, on peut simplement dire que la valeur des actifs s'est très bien maintenue d'une année sur l'autre. Je parlais d'inflation malgré la crise, mais sachez qu'on l'a connue même avant la crise en 2019, notamment dans l'activité ferroviaire. Il n'y avait pas assez d'ateliers pour en fait produire ces 12 000 wagons par an que demandait le marché. Du coup, il y avait eu des augmentations tarifaires hein, de wagons neufs qui ont donc augmenté la valorisation des parcs existants.
Juste pour préciser, l'année dernière, dans le tableau, en valeur de marché, on présentait la valeur de marché de l'intégralité du parc. Détenu par le groupe, mais on ne retenait pas que la quote-part. Cette année, on présente que la contrepartie. C'est pour ça que l'année dernière, on présentait un chiffre de 401 millions. Cette année, on présente un chiffre qui est inférieur, donc on a l'impression que ça baisse. Oui. En fait, c'est une histoire de cote-part. La cote-part permet de comparer très facilement sur le titre, sur le nombre d'actions, en fait. Donc, on a préféré retenir cette présentation cette année.
D'accord, merci.
Merci, madame. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous n'avons pas de prochaine question, messieurs.
Allô?
Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une prochaine question de Monsieur Robin Lepierre de IDEMIDCAP. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. J'avais une précision sur le carnet de commandes de l'activité modulaire en Afrique. Si j'ai bien compris, il était de 34 millions. Est-ce que c'est un carnet de commandes confirmé? Est-ce qu'on peut avoir la duration de ce carnet de commandes? Quand est-ce qu'il va être livré théoriquement?
Thierry, je vous donne la parole.
34 millions. Sur les 34 millions, il y a 10 millions qui sont en cours de livraison. On peut considérer qu'il y a déjà une partie qui a été livrée sur 2019. On va avoir, je pense, un résidu de 3 millions sur 2020. Malheureusement, le chantier est arrêté pour l'instant. Et donc, on a signé 23,7 millions d'euros, là, en tout début d'année. C'est pour une livraison dans les 24 mois à venir. Donc, on aura plutôt, on va dire, un tiers, un peu plus d'un tiers peut-être cette année. Et puis le sol qui va arriver à partir de l'année prochaine. Les 24 millions, en fait, c'est assez simple parce que c'est du Ex-Works du Maroc. Donc il y a peu d'opérations sur chantier. Là où les 10 millions d'euros, il y a beaucoup d'opérations sur chantier. Je vous d'ailleurs invite à taper sur Google Maps. Vous tapez campus modulaire au Maroc, campus modulaire UM6P, puisque c'est l'université Mohamed VI Polytechnique. Vous allez voir les bâtiments rouges, ce sont les bâtiments qu'on est en train de construire, en fait. Donc c'est un campus avec hébergement étudiants, centre de vie, administration et salle de classe. Et pour ce qui est du contrat de 23,7 millions, ce sont des collèges. Et des lycées, c'est on a donc 24 collèges pour la Côte d'Ivoire et 72 écoles qui seront livrées donc en fin d'année et l'année prochaine.
Ok, merci.
Merci monsieur. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, vous pouvez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une prochaine question de Monsieur Augustin Lecèze. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour à tous. Juste une petite question, parce que à chaque réunion, on vous la pose. Sur la cession, justement, de ces activités en Afrique, vous sembliez dire la dernière fois qu'effectivement, c'était toujours d'actualité. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez nous donner des informations, ou c'est toujours quelque chose qui fait partie de vos perspectives, mais qui ne sont pas aujourd'hui pressées?
Donc on a donné en fait aucune indication précise à ce niveau. La seule chose qu'on a indiqué, c'est que bien sûr, fin 2017, quand nous avons cédé l'activité modulaire aux États-Unis et en Europe, que ça ne faisait plus partie des activités long terme stratégiques pour le groupe, qui se recentrait sur la location de matériel longue durée de matériel de transport. Voilà. Donc il n'y a pas d'annonce particulière à ce sujet. Sachez simplement que bien sûr, pour le groupe, le carnet de commandes est une excellente nouvelle. et que le retour à l'EBITDA positif de l'activité africaine est une excellente nouvelle pour en tout cas valoriser et mieux valoriser notre participation dans cette société. Pour rappel, donc on détient 51% de Twax Africa aux côtés d'un fonds anglais de private equity qui est très actif sur l'Afrique.
Merci. Vous vous êtes pas donné de timing, c'est-à-dire que ça peut être 2020, 2021, 2022 en fonction des j'imagine de critères économiques.
Voilà, en fait on n'a pas donné de timing, mais comme indiqué, donc ce n'est pas, on a clairement indiqué qu'il y avait un recentrage stratégique et que donc ce n'était pas notre activité stratégique à long terme du groupe.
Merci beaucoup.
Merci monsieur. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une autre question de monsieur Robin Lepierre de IDCAPS. Monsieur, c'est à vous.
Oui, rebonsoir. Juste précision, mais là, plus d'ordre pour ma culture personnelle. Aujourd'hui, vous voyez l'activité de conteneurs en partance de Chine, elle est à quel niveau? Vous voyez quoi, vous, de votre côté?
Alors, plusieurs choses. L'activité d'abord en Chine a été, comme vous le savez, très perturbée. En février et mi-mars puisque en fait ils sont imposés Shanghai est le premier port du monde hein. Donc aujourd'hui Shanghai est le premier port du monde. Shanghai est en face la région de Hubei et donc forte perturbation avec beaucoup d'usines fermées. Sachez qu'à aujourd'hui les niveaux de réouverture des usines de fabrication de conteneurs sont maintenant réouvertes à peu près à 70 à 90%. Le confinement aura duré à peu près 45 jours, on va dire voilà, à peu près en moyenne 45 jours. Heureusement, la période de février et juste après l'année chinoise est traditionnellement un mois de volume faible pour ces activités internationales de transport, puisque tout se fait avant le nouvel an, on va dire, du 31-12, et tout avant le nouvel an chinois. Donc, février est traditionnellement un mois faible. Donc, il n'y a pas de changement majeur. Ce qu'on voit, par contre, c'est une activité qui revient quasi normale actuellement, puisqu'il y a un rattrapage des usines qui avaient été fermées, et donc un bon niveau d'activité ex-Chine. Et comme je l'ai indiqué, des augmentations tarifaires pour les personnes qui souhaitent s'équiper en conteneurs neufs, puisque il y a des manques. Nous avons vu récemment des appels d'offres, ce qui n'était pas du tout arrivé en 2009. Hein. En 2009, aucune demande pendant à peu près 12 mois. C'est-à-dire, quand je dis aucune demande, il n'y a pas un contrat de demande de conteneurs qui était sur le marché, pas un appel d'offres, et la production était passée de 3 500 000 conteneurs à 200 000 conteneurs. Donc on avait divisé quasiment par 10 la production de matériel neuf. Là, vous avez Hapag-Lloyd et MSC qui ont lancé des appels d'offres. Hapag-Lloyd pour 50 000 conteneurs, c'est majeur, c'est très important pour eux, afin de s'équiper. C'est simplement pour faire face aux besoins de remplacement. En fait, ils ont peur que, comme l'activité de vente de matériel d'occasion est assez élevée et active, ils ont peur de manquer de matériel dans un scénario de zéro croissance, hein, c'est-à-dire de très faible croissance. Ils ont besoin de remplacer la flotte. Donc il y a deux gros appels d'offres qui sont sortis en début d'année et un maintien du coup des taux d'utilisation des loueurs à 96%. Voilà, donc en fait, je pense que la Chine, on vit aujourd'hui, nous, Européens, le confinement. On est terrorisé par les annonces journalières. Les Américains, malheureusement, voient aussi la vague chez eux, mais les Asiatiques, eux, se remettent à travailler.
Ok, merci. Et vous, sur le, si on prolonge, sur le wagon européen, est-ce qu'il y a un risque particulier que vous avez identifié? Parce que forcément, si l'activité économique ralentit, potentiellement les wagons circulent moins. Alors même si vous avez des contrats long terme, il y a une partie de relocation qui risque de poser problème, non?
Oui, donc c'est les deux scénarios qu'on a donnés, les scénarios courts et les scénarios longs. On est pour l'instant plutôt dans un scénario court d'une reprise donc sur Q2. Pour l'instant, à ce jour, on vous l'a communiqué deux fois hein, par communiqué de presse, il n'y a pas d'impact. Par contre, on anticipe bien sûr des problèmes sur certains clients, probablement des demandes d'avoir, probablement donc beaucoup de discussions commerciales en fait, notamment sur le mois d'avril. Pourquoi ? Parce qu'il y a des confinements, des arrêts d'usines. Et que donc il y aura moins de trafic, hein, bien sûr, hein, notamment sur l'Europe et certains pays plus touchés que d'autres, comme la France ou l'Italie. Voilà. Alors, heureusement, la flotte de nos wagons est très, très disséminée partout en Europe. Hein, donc, on est très, très diversifié en termes de zone géographique. Et beaucoup de pays, pour des raisons de maintien, enfin, de la consommation des ménages, en fait, hein, qui, même confinés, ont toujours besoin de se nourrir ou de consommer, les trains ont été considérés comme... stratégique, et donc les trains circulent. Hein. Donc sachez que les trains cargo circulent à un très bon niveau partout en Europe, et même la baisse des transports passagers donne de l'espace sur les sillons, ce qui fait que ça favorise même la fluidité des transports de fret. Alors que les transports de fret, autrefois, étaient malheureusement souvent confinés à ne travailler que la nuit. Bon. Voilà, donc non, le fret continue, mais bien sûr, on reste extrêmement vigilant. On s'attend de toutes les façons, comme toujours, à des demandes et on est préparé pour ça.
Ok, merci.
Merci monsieur, nous n'avons pas de prochaine question. Mesdames et messieurs, je rappelle que si vous en souhaitez en poser une, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une prochaine question de Monsieur Éric Saint-Divier de Société Civile de Tiers. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour à tous. J'avais juste une question, c'est sur les impacts d'activités abandonnées. Je pense que c'est une garantie d'actifs et de passifs. Est-ce qu'on a une perspective d'arrêt de ces frais? Et puis, est-ce que, au travers des refinancements futurs, est-ce que vous avez une perspective de baisse des taux d'intérêt qui sont à 4,66. Donc, et en vous saluant chaleureusement au passage.
Impact d'activité abandonnée, donc 0,7 millions d'euros, c'est notamment, vous savez, la fin d'un litige qui était avec AGECO, soit que ça a gagné, avec un impact notamment de 500 000 euros, quelques petits impacts ensuite pour traiter les litiges, mais là, pas les litiges avec Algeco, l'acheteur, hein, qui étaient des litiges plutôt avec les litiges passés. Donc, on prévoit bien sûr plus ces 700 000 euros d'activité abandonnée pour 2020. Alors, il y aura peut-être 50 000 euros de frais d'avocat pour encore suivre quelques dossiers. Mais ça ne sera pas du tout majeur et on parle bien. Et d'ailleurs, maintenant en cash, hein, on anticipe la récupération de la totalité du compte séquestre. Voilà, donc on est bien là sur la fin d'un processus. Baisse des taux d'intérêt, je pense qu'il faut rester prudent. Puisque les banques, dans le marché actuel, hein, bien sûr, les taux d'intérêt, vous avez vu, encore beaucoup baissé, notamment sur le dollar. On devrait en bénéficier, mais les banques vont bien sûr augmenter leurs marges hein, pour tenir compte de primes de risque. Donc, je pense qu'on soit en mesure aujourd'hui d'annoncer et de fanfaronner sur une possible baisse des intérêts. On va travailler dur pour en tout cas les maintenir. Et je pense que les augmentations de marge annoncées par certaines banques, de toutes les façons, en effet, seront amorties par les baisses de taux d'intérêt. Voilà, donc plutôt ça du coup à ce niveau.
Merci.
Merci monsieur, nous n'avons pas de prochaine question.
Très bien, écoutez, merci à tous, merci encore de nous avoir rejoints dans ces temps chahutés, d'avoir participé à cette réunion nombreux, et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous poser toutes vos questions, y compris après la réunion. Merci à tous.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter.